Les petits prophètes. On a regardé les quatre prophètes qu'on appelle majeurs ou les grands prophètes, qui sont Ésaïe, Jérémie, Daniel et Ézéchiel. Et maintenant, ce soir, on regarde les 12 petits prophètes qui sont appelés comme ça parce que leurs écrits sont de volume plus petits que les grands. C'est pas parce qu'ils ont moins d'importance ou parce qu'ils sont moins considérés. On dit que c'est de manière connue que c'était saint Augustin qui les avait appelés comme ça. On avait dit que les prophètes se retrouvent un petit peu à différents moments de l'histoire d'Israël. On va regarder ce soir et je vais le spécifier à chaque fois vers qui ils sont envoyés. Pour certains, c'est le royaume d'Israël au nord avant l'exil. Pour certains, c'est Juda au sud avant l'exil aussi. On a quelques prophètes qui sont envoyés vers les nations ou qui ont des messages pour les nations païennes alentour. Et on a quelques prophètes qui viennent après l'exil. On avait vu que Daniel et Ézéchiel, c'était pendant l'exil, mais là, on en a quelques-uns qui viennent après et qui se situent donc à l'époque de Néhémie, Esdras et Zorobabel et toutes ces personnes-là. Et ça nous donne le contexte, toujours cette idée de se resituer dans le contexte pour aider à comprendre de quoi il parle. Quand on étudie les prophètes, les grands prophètes, puis les petits prophètes, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de thèmes qui reviennent. Hein. C'est souvent les mêmes idées, les mêmes expressions. On pense même qu'il y avait une certaine influence les uns entre les autres. Peut-être que certains qui sont venus après, ils avaient eu accès à des écrits de ceux qui étaient là avant eux, qui avaient vécu à des époques plus tôt et qui avaient peut-être lu leurs textes et qui réutilisaient peut-être donc certaines expressions ou certaines phrases. Il y a des recoupements qu'on peut faire entre les différents prophètes. Les idées, les thèmes sont les mêmes. Ça change un petit peu sur la forme et par rapport à qui c'est adressé. L'idée principale envers le peuple juif, c'est l'idée qu'ils sont dans le péché, qu'ils n'obéissent pas à Dieu, et que ça va l'obliger à les juger, parce que Dieu ne peut pas tolérer le péché, qu'il va utiliser les nations autour pour les juger, pour accomplir sa punition, son jugement sur eux, mais toujours avec l'option d'obéir et d'éviter cette punition, et aussi une annonce d'un rachat futur, même s'il va punir, même s'il va... devoir agir, il a quand même une alliance avec son peuple et il va les racheter in fine, il va leur donner un avenir glorieux après cette punition parce qu'il les aime. Aujourd'hui, on va parler quelquefois, je vais le noter. Il y a d'autres expressions qu'on pourrait noter, mais il y a l'idée qui revient souvent, c'est l'idée du jour de l'Éternel, qui revient il est dans Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, il est dans Joël, Amos, Abdias, Sophonie, Zacharie et Malachie, et ensuite c'est repris dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, dans 1 et 2 Corinthiens, dans Thessaloniciens et dans 2 Pierre. C'est ce qu'on va regarder ce dimanche matin, d'ailleurs. Donc, ça tombe bien. Ça va un petit peu aussi conditionner le message et les choses qui sont annoncées pour Israël et aussi amener un petit peu l'histoire qui vient après ces petits prophètes. Et puis, l'annonce du Messie et la suite qui nous attend encore, en quelque sorte. Et on commence avec les petits prophètes qui étaient avant l'exil. On commence avec Osée. Et on en a quelques-uns. On se souvient que le royaume du Nord n'avait eu que des mauvais rois et avait été emmené en captivité plus tôt par le royaume d'Assyrie, qui était au Nord. Le royaume d'Assyrie avait ensuite posé des problèmes au royaume du Sud, mais le royaume du Sud s'était repenti, était revenu vers Dieu, et ils avaient eu droit à plus de... Ils étaient restés dans la terre promise, peut-être de 300 ans de plus que le royaume du Nord. Et donc ça importe aussi sur le message, parce que les prophètes, il y en a certains qui sont au nord, qui préviennent le royaume du nord, puis quand le royaume du nord va tomber, les prophètes dans le royaume du sud vont prévenir le royaume du sud en disant attention, la même chose peut vous arriver. Et ça conditionne donc le contexte pour le royaume du sud et les prophètes qui s'y trouvent. Osée était un prophète dans le royaume du Nord, donc Israël. C'est un des plus longs des petits prophètes, avec 14 chapitres. On ne sait quasiment rien de lui, sauf ce que le début du livre nous en dit, à savoir que c'était le fils de Béri, ou voir comment ça se prononce exactement, j'en suis pas sûr. Son nom signifie « salut ». Et lui va être prophète sous le roi Jéroboam II, qui était le fils de Joas, en Israël, donc dans le royaume du Nord. Et à l'époque de les royaumes du Sud, il va en avoir plusieurs, Ozias, Jotham et Achaz. Et ça, c'est annoncé tout de suite au début d'Osée. Il nous dit sous les règnes de un tel, etc. Ça, c'est des passages. On a des détails sur ces rois dans 2 rois 14 à 20. Donc, c'est un gros morceau. C'est un contemporain d'Ésaïe, de Michée et d'Amos. Donc, deux autres petits prophètes qu'on va regarder. Il va avoir un ministère long qui va durer environ une cinquantaine d'années. Entre ce roi Jéroboam II et la chute du royaume d'Israël devant la Syrie. Et il les prévient et il va leur annoncer cette chute à venir. On n'est pas sûr à savoir s'il était vivant lors de la chute ou pas, mais on sait qu'il était vivant jusqu'à très... quelques années avant, peut-être 1 ou 2 ans avant, s'il n'était pas vivant lors de la chute vraiment du royaume du Nord. Et le contexte ici, pour se rappeler un petit peu et pour comprendre le message et ce qu'il va annoncer, sous ce Jéroboam II, les choses vont très bien pour le royaume du Nord. Ils ont des victoires militaires, ils vont reprendre des territoires au nord, ils vont être dans une grande abondance matérielle, mais il y a une grande infidélité envers Dieu. Ils ont construit des veaux d'or à Bethel et Dan, qui vont leur servir de culte séparé de Jérusalem et du temple. Ils ont inclus plein de rites, des religions, des peuples autour d'eux, et le pire étant le sacrifice d'enfants. La moralité du pays était vraiment en crise. Il y avait de l'adultère, de l'injustice, des crimes violents, de l'hypocrisie religieuse, de l'arrogance et un manque de reconnaissance envers Dieu. Un des commentaires que je lisais donne une petite phrase que je trouve à propos. La sécurité étant assurée, toute l'énergie peut s'orienter vers le développement de l'économie et du commerce, mais avec la prospérité, la corruption, les injustices et l'idolâtrie se développent. Le fossé entre les riches et les pauvres se creuse toujours davantage. Pour décrire cette époque sous ce roi. Et Après ce roi Jéroboam II, ce royaume va tomber très rapidement. Il va avoir une succession de rois, de quatre rois en 30 ans, et qui vont succéder avec des coups d'État, avec la mort de tous les successeurs de Jéroboam. Et c'est vraiment une chute dans le chaos. Et Osée, son message est intéressant et choquant à la limite. En fait, Dieu lui demande de faire quelque chose pour être une illustration vivante pour les Israélites. Il lui demande de prendre pour femme une prostituée qui s'appelle Gomer et ses trois enfants. Et chacun des enfants va recevoir un nom qui signifie quelque chose. C'est ce que vous pouvez voir dans le chapitre 1. Donc il y a trois enfants, Jisraël, qui veut dire dispersé ou semé par Dieu. Et c'est l'endroit où le père de ce roi Jéroboam a tué le précédent roi. Et Dieu va lui en tenir compte et va le juger pour ça. Lo-Ruhama, c'était le deuxième enfant, qui veut dire ne plus aimer. Et Lo-Ami, qui veut dire ne plus être mon peuple. C'est ce qui est décrit, c'est les versets 1, c'est le chapitre 1 des versets 4 à 9. Ces choses sont décrites. Et ces enfants sont un avertissement au peuple d'Israël de ce qui se passera s'ils ne changent pas leur comportement, savoir qu'ils ils ne vont plus être aimés, ils ne vont plus être son peuple. Cette femme, donc Gomer, va être infidèle plusieurs fois à Osée, et Dieu lui dit de lui pardonner, de la racheter, suivant la loi des Juifs de l'époque, et ça va être un exemple vivant de la relation entre Dieu et Israël. Au chapitre 3, verset 1, l'Éternel m'a dit, va encore aimer une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les Israélites alors qu'ils se détournent vers d'autres dieux et aiment les gâteaux de raisin. Et donc, l'idée, c'est que l'infidélité d'Israël à l'égard de Dieu est représentée par la prostituée et les enfants qui sont le fruit de cette prostitution. Et Osée va inviter la nation, va dans la suite du livre les exhorter à revenir à leur premier amour, à revenir à Dieu. Et Osée comprend Dieu et sa position et va pouvoir annoncer un message à cause des souffrances dont il va faire l'expérience lui-même dans cette situation. Et on voit aussi à travers sa fidélité envers cette femme, malgré ce qu'elle fait, l'image de la fidélité et de la patience de Dieu envers Israël, qu'il n'est pas prompt pour les juger, et qu'il attend et qu'il veut les racheter, il veut les ramener à lui, il veut que le peuple d'Israël revienne à lui. Et donc les chapitres 4 à 14, c'est un petit peu la suite de cet enseignement. Alors il y a beaucoup de choses à voir. Mais c'est encore une fois un petit peu le message que je vous disais qui ressort souvent chez les prophètes, à savoir que Dieu souffre quand son peuple lui est infidèle et que Dieu ne peut pas supporter le péché. Il est obligé de juger le péché, mais que même face à ça, il ne cesse pas d'aimer le peuple et il cherche toujours du coup à se réconcilier avec le peuple d'Israël. Il y a quelques versets qui sont intéressants à noter. Le chapitre 11, verset 1, qui est cité dans Matthieu 2, 15 et qui annonce en fait le Messie. On peut noter aussi, si vous voulez, Osée 5, les versets 15 à, au chapitre 6, verset 3, qui sont aussi une annonce de Jésus. Il est dit, je m'en irai, je reviendrai à ma place jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et recherchent ma présence. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Venez, retournons à l'Éternel. En effet, il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Donc on voit les trois jours. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Quand vous lisez ces livres, parfois c'est un petit peu difficile. On a l'impression que, encore une fois, de pas arriver à se concentrer sur ce qui est dit, c'est un petit peu des allégories, etc. Et puis de temps en temps, vous tombez sur des versets qui en fait sont cités dans le Nouveau Testament par d'autres, par Jésus, par les apôtres, et on voit qu'ils avaient une bonne connaissance de ces prophéties et qu'il y a beaucoup de choses qui concernent le Messie, Jésus. Mais aussi des choses qui concernent la fin des temps, qui concernent la deuxième venue de Jésus, et ça donne une vraie richesse à la lecture de ces passages, en plus des messages par rapport à la fidélité, la patience de Dieu et tout ce qu'on peut en tirer en lecture en première signification. Il y a aussi le chapitre 13, verset 14. Je les libérerai du pouvoir du séjour des morts, je les rachèterai de la mort. Mort, où est ton fléau? Séjour des morts, où est ton pouvoir de destruction? Le regret se cache à mes regards. Dans d'autres traductions, c'est mort, où est ton aiguillon? Et c'est ce qui est cité par Paul, en fait, dans Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, 55. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on connaît, mais on n'a pas forcément la référence de l'Ancien Testament. Ouais. Et puis c'est intéressant toujours de faire un parallèle si on regarde les thèmes et les choses qui sont reprochés aux Israélites, à savoir que il n'y a pas de que la morale s'en va, qu'il y a une sexualité déréglée, qu'il y a un non-respect de la vie humaine par rapport aux enfants, un petit peu comme l'avortement, qu'il y a des problèmes par rapport au mariage, que les riches abusent de leur pouvoir face aux petits, que la religion n'est qu'une façade et qu'il n'y a pas de crainte de Dieu. Tous ces textes des petits prophètes semblent parler directement à notre époque, évidemment. Quand on parle de ces problèmes, on n'a pas besoin d'aller chercher bien loin pour les mettre dans notre propre contexte et de se dire que Dieu aussi va juger. Et comme on a vu dans 2 Pierre, c'est pas qu'il s'est endormi ou qu'il oublie, mais c'est qu'il use de patience envers les gens pour que le plus de gens possible puissent venir à lui, mais devant l'accumulation de fautes et de péchés, il va être obligé de juger. Joël est un prophète dans le royaume du Sud. C'est un petit livre avec 4 chapitres. Joël est appelé le fils de Pethuel. Son nom signifie l'Éternel est Dieu. Lui non plus, on n'a pas beaucoup de détails. On n'est même pas vraiment sûr du contexte, de savoir à quelle époque il a vécu. Il y a des débats. Vous pouvez chercher en ligne et trouver un petit peu les différentes possibilités. Et lui, il annonce un jugement avec des sauterelles qui vont venir dévorer le pays et une grande sécheresse, avec un feu qui va aussi ravager le pays. en annonçant cela, il l'annonce aussi comme le jour du jugement, le jour de l'Éternel. Ce dont je vous parlais. Les sauterelles étaient une vraie plaie à l'époque du monde antique. Nous, on n'est peut-être pas forcément très au courant, parce que c'est moins le cas de nos jours. Je sais que dans les années 90, par exemple, à Madagascar, il y avait des vrais problèmes avec ça. Et c'est des essaims qui peuvent compter dans les milliards d'individus et qui peuvent se déplacer comme on a l'impression d'avoir un nuage à l'horizon et ils mangent littéralement toutes les plantes sur leur passage. Donc, évidemment, pour nous, c'est un petit peu difficile à comprendre parce qu'on ne connaît pas, mais à l'époque, c'était un vrai problème. Ça voulait dire pas toutes les récoltes, toutes les plantes étaient mangées et il ne restait rien pour les gens. Donc, c'est un vrai quelque chose qui leur ferait peur. Joël va appeler les individus et la nation à l'humilité et à la repentance aussi. Il annonce ce jour du Seigneur qui va apporter la destruction aux méchants, mais il annonce aussi des effusions du Saint-Esprit qui vont venir sur les fidèles. Et donc il a aussi ce message, cette idée que Dieu va juger son peuple s'il ne se repent pas. Et l'image des sauterelles, c'est l'image d'un peuple nombreux. On se souvient par exemple que les Assyriens, quand ils assiègent, après avoir conquis le royaume du Nord, ils vont assiéger le royaume du Sud. Et on dit qu'ils vont être presque 200 000, une armée de presque 200 000 personnes. Ça peut être aussi un petit peu cette image-là. Et c'est aussi une image qui revient dans l'Apocalypse, à la fin des temps. Cette image de sauterelles qui viennent infliger des douleurs sur les hommes. Et Joël a une note positive pour finir, où l'idée c'est qu'il châtie pour purifier, pas pour exterminer, et qu'il va restaurer son peuple, et qu'il va juger les nations ennemies, ces sauterelles qu'il utilise comme outil pour châtier. Dans Apocalypse, c'est Apocalypse 9, versets 3 à 11, si vous voulez le noter. Et ce que je vous disais, cette effusion du Saint-Esprit, c'est ce que Pierre va citer dans Actes 2, 15. Si vous voulez regarder dans Joël, c'est Joël 3, verset 1. « Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos veillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Je ferai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. » Alors toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Il y aura des rescapés sur le mont Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel, et parmi les survivants que l'Éternel appellera. Amos est un prophète au nord, dans le royaume d'Israël. Le livre fait 9 chapitres. Et Amos était un berger paysan quand Dieu l'a appelé à devenir prophète. Son nom signifie porteur de fardeau. C'est intéressant pour un prophète qui porte le message lourd à porter de la part de l'Éternel. Ça semble aussi là très à propos. Lui aussi est sous ce roi Jéroboam II dont on avait parlé avec Osée. Son message est complémentaire de celui d'Osée. Lui, en tant que berger, paysan, un petit peu du peuple plutôt pauvre, va beaucoup parler de l'opulence et des abus de la part des riches qui ne respectaient pas la loi de Dieu, mais par rapport à comment ils devaient se comporter avec cette richesse et par rapport à leurs frères et sœurs du peuple. Là encore, c'était l'opulence, on avait dit, tout allait bien. Le peuple, en fait, interprétait cette richesse comme étant le signe de la faveur de Dieu. Et Osée va leur dire, non, c'est pas la faveur de Dieu, vous avez pas bien compris la situation. Si vous changez pas votre comportement et vos cœurs, ça va pas durer. Et lui, il va commencer en annonçant 8 jugements contre les nations. Donc il y en a 6 sur les nations autour. Damas, Gaza, Tyr, Édom, Ammon, Moab. Et ensuite sur Israël et Juda. Il va leur rappeler que Dieu avait été bon envers le peuple dans le passé et qu'ils ont donc une responsabilité vis-à-vis de Dieu de bien se comporter, d'obéir. On peut regarder dans Amos 5, il y a quelques versets qui résument bien les quelques idées. Dans Amos donc 5, verset 18, « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel, qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. » Il continue un petit peu et il répète encore, « Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat ?» Le peuple se disait, « On est le peuple choisi, Dieu nous aime, on est dans l'opulence. Et Dieu doit envoyer son Messie, tout va aller bien. Et ils se disent donc, on veut la venue du Messie, on veut qu'il vienne. Ils attendent le jour de l'Éternel et Osée va faire parvenir ce message de la part de Dieu qui dit non, le jour de l'Éternel, ça va être un jugement parce que vos cœurs ne sont pas au bon endroit. Et il continue là au chapitre 5, « Je déteste, je méprise vos fêtes, je ne peux pas sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir, et les veaux engraissés que vous offrez en sacrifice de communion, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que le droit jaillisse comme un cours d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. » Cette idée qu'il s'occupait des rites religieux, mais en fait, leur cœur n'était pas au bon endroit. Ils pensaient, c'est bon, on a les apparences, mais Dieu, il leur dit, je veux la vraie justice, je veux le droit. Et c'était ces injustices sociales, cette décadence morale, l'indifférence à l'égard des malheureux. Et comme je vous disais, Osée, comme étant initialement un paysan berger, était bien placé pour comprendre cela. Cette idée que les riches abusaient du peuple. Et c'est quelque chose, évidemment, pour nous de bon à retenir, qui revient sans cesse, mais qui, même pour l'Église, quand on voit les certaines des choses qui sont dites dans le livre de l'Apocalypse en avertissement à l'Église, c'est que Dieu veut un cœur droit, avec de bonnes intentions. Il veut pas des rites religieux, pas des apparences. Je lisais cette semaine des articles sur le film qui a gagné l'Oscar du meilleur film aux États-Unis, qui était en fait un film sur l'enquête journalistique qui a mis au jour les abus de la part de prêtres catholiques aux États-Unis sur des enfants. Et dans la presse en France, il y avait quelques réactions de la part de prêtres catholiques qui ont été voir le film et qui disaient qu'ils en avaient eu mal au cœur et qu'ils voyaient bien que dans bien des cas, l'Église catholique cherche à sauver les apparences, les semblants, mais qu'en fait le vrai droit et la vraie justice, alors qu'ils étaient au courant de certains de ces abus, ils ont cherché à couvrir pour protéger leur réputation. Et c'est ce genre de choses dont parlent ces prophètes, cette idée que c'est pas les apparences, c'est pas les robes longues et les cierges qui comptent, c'est le cœur. Si on est à faire n'importe quoi, lui voit à travers. Abdias. C'est un chapitre. Donc on peut dire Abdias 1 ou juste parler du verset 1 dans Abdias. On n'est pas sûr non plus de son époque exacte, lui aussi. Il prophétise envers la nation, envers Édom. Donc on sait que c'est avant l'exil, en tout cas. Son nom signifie serviteur ou adorateur de l'Éternel. Et le peuple d'Édom, j'en avais déjà parlé, était le peuple qui descendait d'Ésaü, qui était le frère de Jacob. Et dans l'Ancien Testament, ça représentait la plupart du temps l'idée de soi, l'idée de confiance en soi, confiance en sa propre force, sans Dieu. Et la nation d'Édom va être toujours opposée à Israël dans leur histoire, toujours en lutte. Et on sait même qu'ils vont profiter de certaines des invasions quand Dieu va juger Israël au nord et Juda au sud. Édom va en profiter pour passer après l'invasion, pour piller et encore plus faire mal à Israël de manière très lâche. Et Dieu les prévient qu'il va les juger aussi pour ces choses-là. Ils étaient très fiers de leur force. Ils avaient une montagne, une forteresse qu'ils pensaient être imprenable. On pense aussi que c'était par exemple ce peuple-là qui a creusé la ville de Petra, d'après ce que je sais. Et Abdias va annoncer leur destruction complète. Et en effet, ils ont progressivement perdu de l'importance et n'existent plus depuis, on estime, environ 200 après Jésus-Christ. Et c'est l'idée que la lâcheté et l'orgueil vont être jugés. Mais aussi que Dieu va garder son peuple et qu'il va juger les peuples qui vont infliger des jugements à Israël. C'est intéressant et marrant à la fois, cette idée que Dieu utilise un peuple, une nation autour pour juger son peuple, mais qu'après il dit, mais après je vais quand même aussi juger cette nation pour ce qu'ils ont fait. Il y a un mélange et on va le voir un petit peu plus loin avec un des autres prophètes où Dieu va justement parler de ça avec le prophète. Jonas, qui est un peuple...
Excuse-moi, est-ce que tu as dit la signification de son prénom ou c'est moi qui ai pas dit?
Édom, serviteur ou adorateur de l'Éternel. Non, Abdias, qui veut dire serviteur ou adorateur de l'Éternel. Édom, c'était une variante, il pense, de Ésaü, et qui voulait dire rouge ou roux. On se souvient qu'Ésaü était roux, avait ce poil épais. Jonas est un prophète qu'on connaît bien souvent parce qu'on aime bien l'étudier à l'école du dimanche, parce que c'est une histoire qui passe bien, peut-être mieux que par exemple Osée. C'est un petit peu plus difficile à expliquer aux enfants ce que c'est qu'une prostituée.
Alors qu'une baleine,
ça passe plutôt bien. C'est un prophète qui est envoyé vers l'Assyrie et notamment la capitale Ninive. Fait quatre chapitres. Jonas, on sait qu'il venait de une ville qui s'appelait près d'une ville qui s'appelle Gath, dont il est question dans 2 Rois 14. Lui aussi est sous le roi Jéroboam II, donc en même temps que ses autres prophètes. Ninive, c'est la plus grande ville de l'époque, la capitale de l'Assyrie. L'Assyrie va être le plus grand ennemi du royaume du Nord, Israël. Comme c'est l'ennemi d'Israël, il est normal de voir la réaction de Jonas qui ne veut pas que Dieu épargne l'Assyrie. Le résumé de l'histoire, c'est que Dieu demande à Jonas d'aller... avertir Ninive qu'ils doivent se repentir et qu'ils doivent changer leur comportement. Jonas refuse et tente de s'enfuir dans le sens opposé en prenant un navire, en essayant d'aller à l'opposé. Dieu fait lever une grande tempête quand il est dans le bateau et Jonas sait que c'est de sa faute et il va se laisser jeter par-dessus bord par les personnes à bord pour dire on va, comme ça, ça va calmer la tempête et vous allez être sauvés. Une fois à l'eau, un grand poisson l'avale. Et 3 jours plus tard, il est recraché sur une plage. Et à ce moment-là, il va à Ninive. Jonas annonce alors aux Ninivites qu'ils doivent se repentir. Et ils se repentent et Dieu les épargne. Et ça énerve Jonas qui boude. Et Dieu doit lui faire comprendre qu'il règne et qu'il peut être miséricordieux envers qui il veut. Même les peuples autour, les peuples autres qu'Israël. Donc je vous disais, c'est un peu normal la réaction de Jonas. Il était peut-être au courant de certaines prophéties pour la nation d'Israël et se disait, ben ça nous épargnera les jugements s'ils sont détruits. La réaction de Jonas peut faire penser à l'histoire du grand frère du fils prodigue, un petit peu qui Dieu veut faire quelque chose, veut faire la fête et veut pardonner et il n'est pas content. Évidemment, ce prophète fait discuter énormément à cause de cette histoire du poisson. Est-ce que c'est vrai? Jésus en parle comme tel dans Matthieu 12. Et c'est aussi un joli symbole de la mort de Jésus, de sa résurrection. Jonas est aussi un type d'Israël, de voir comment il a désobéi à son appel, qu'il est sorti de la terre promise, qu'il s'est caché parmi les non-juifs, que les non-juifs, les païens vont le rejeter, qu'ensuite il va être préservé malgré de grandes difficultés, et qu'il va témoigner de Dieu et il va servir Dieu à la fin. Et dans ce livre, Dieu montre l'étendue de son amour et de sa miséricorde. Il a compassion de tous les peuples, ce n'est pas limité à Israël. Et dans Jonas 4, 11, il dit, Jonas s'énerve un petit peu et Dieu, en lui parlant, il dit « Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, incapables de distinguer leur droite de leur gauche et un grand nombre d'animaux. » Un petit peu pour lui dire « Mais toi, tu... » Dans l'histoire, il est énervé parce qu'une petite plante meurt et Dieu dit « Mais je vais... » Et moi, j'épargnerai pas ces gens. Donc Jésus parle de Jonas et de Ninive dans Matthieu et dans Luc. Et finalement, on remarque, c'est assez fou que ce livre soit dans le canon juif quand on sait qu'Israël est détruite par la Syrie quelques années après, une centaine d'années après. C'est quand même fou. Et pour nous, ça peut être vu aussi comme un appel à ne pas limiter la grande commission que Jésus nous a donnée, l'appel à témoigner de lui à tous les peuples, à qui que ce soit. On sait que l'Église, malheureusement, par le passé, a pu limiter un petit peu leur appel, où on, en tant qu'être humain, on peut souvent dire non, mais eux, ils ont trop péché, eux, ils sont trop éloignés de Dieu, etc., etc. Et c'est pas ce que Dieu veut. Michée, prophète dans le royaume du sud, mais aussi un petit peu dans le royaume du nord. Son nom signifie « qui est comme l'Éternel ». Lui aussi est originaire de près de Gath et vivait à la campagne. Lui, dans le royaume du sud, il est sous les rois Jotham, Achaz et Ézéchias. C'est un contemporain d'Ésaïe. Et lui va voir la chute du royaume du nord. Et il a un ministère assez long avec différentes situations sous différents rois. Il va notamment être présent quand il y a un réveil en Israël, et on peut se dire que c'est peut-être aussi à cause de son message. Donc le jugement vient sur Israël au nord par l'Assyrie. Mais il annonce le jugement qui va venir au sud par Babylone. Et il promet quand même la bénédiction de l'Éternel qui va arriver avec un roi qui va amener la paix, le Messie. Et c'est cité, cette idée qu'il va guérir son peuple et qu'il va régner sur eux. Il les appelle aussi à la repentance. Il leur promet de les pardonner s'ils se repentent. Lui aussi va dénoncer les abus, la corruption, l'oppression des pauvres et des faibles. Il a des choses assez pratiques. On dit de lui qu'il est un petit peu comme Jacques. Il y a une espèce de foi pratique avec des choses simples à faire. Si on veut regarder peut-être quelques éléments, il y a dans le chapitre 5 la prophétie par rapport au Messie et Bethléem. Il dit: « Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher, et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous enverrons contre lui 7 bergers et 8 princes du peuple, etc. etc. » Ça change un petit peu, mais cette prophétie sur Bethléem et sur le Messie. Et un passage qui est cité assez souvent, au chapitre 6, le verset 8, où il dit: « On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Et ça, c'est un résumé de ce que Dieu demande à l'homme, de comment il veut que l'homme vive. Nahum, le 7e petit prophète, est envoyé vers Ninive, encore une fois, vers la Syrie au nord. C'est un petit livre de 3 chapitres. Il vient de la Galilée, on pense comme proche de l'endroit d'où venait Jonas, mais lui va venir 100 ans après Jonas. Et donc Dieu le renvoie vers Ninive. Son nom signifie celui qui console, qui a compassion. Il y en a certains qui pensent que peut-être que la ville de Capernaum, qu'on voit lors de la vie de Jésus, était peut-être nommée après ce prophète. Lui, il vient environ 50 ans avant la chute de la Syrie. Et il est contemporain de Jérémie et du prophète qu'on va voir un peu plus loin, Sophonie. Et lui, il appelle encore Ninive à se repentir, sinon elle va être détruite. C'est aussi un message d'espoir pour le royaume du sud, Juda, qui est en difficulté, qui est en bataille un petit peu avec la Syrie, qui a déjà emmené le nord en captivité. Lui va annoncer le jugement, va décrire en détail certains éléments de comment la ville va être détruite et va donner les raisons de cette destruction. Et il y a un verset qui est très beau et qui est connu aussi là, Nahum 1, verset 3. « L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, mais il ne laisse pas impuni. » etc., etc. Mais cette idée que Dieu est lent à la colère. Et c'est très intéressant par rapport à Ninive. L'archéologie moderne n'a retrouvé Ninive qu'en 1845. Avant ça, on pensait qu'elle n'existait, que c'était peut-être, on doutait de son existence, on pensait que c'était peut-être autre chose. C'est bien ce que Nahum annonce au chapitre 3, verset 17. On ne reconnaît plus l'endroit où ils étaient. Et Ninive, il faut se rendre compte que c'était la plus grande ville de l'époque. C'était une ville immense pour l'époque, avec des murs une double muraille de 30 mètres de haut, avec les estimations changent entre 150 à 250 000 personnes, et avec une métropole avec trois autres villes qui étaient peut-être jusqu'à 1 million de personnes. C'était la fierté de l'Empire assyrien. On se disait, ils vont jamais pouvoir, cette ville ne pourra jamais être prise, vu les fortifications, mais Dieu, pour Dieu, ce n'est pas un obstacle. Habakkouk, prophète dans le royaume du Sud, trois petits chapitres. Son nom signifie celui qui embrasse, qui étreint ou qui lutte. C'est un contemporain de Jérémie, sur la fin du royaume du Sud, mais avant la déportation à Babylone. Il est entre la chute de la Syrie et la montée en puissance de Babylone. Le peuple se croit un petit peu à nouveau tranquille. La Syrie est détruite par Babylone, mais Babylone n'est pas encore vraiment une puissance sur toute la région. Et le livre est une conversation un petit peu entre le prophète et Dieu. Et ça commence un petit peu avec des questions de la part d'Habakkuk qui dit « Pourquoi, Dieu, est-ce que tu ne fais rien contre tout le mal que je vois autour de moi ?» C'est des questions qui peuvent ressembler un petit peu à ce qu'on voit dans Job. Et la réponse de Dieu va choquer Habakkuk. Dieu va lui dire « Je vais utiliser une nation païenne pour juger mon peuple, les Chaldéens, donc Babylone. » Et ça trouble Habakkuk qui cherche à comprendre, qui dit mais pourquoi utiliser une nation comme ça pour comme un outil pour juger ton peuple. Et Dieu va lui répondre et ça va lui donner la paix et il va ensuite louer Dieu. Et ce qu'on peut retenir pour nous c'est l'idée qui est au chapitre 2 verset 4. Le juste vivra par la foi. Et cette petite phrase est évidemment reprise dans Romains 1:7, dans Galates 3:11 et aussi dans Hébreux 10:38. Et par rapport à ce contexte, c'est l'idée que même si on ne comprend pas ce qui se passe, Dieu lui sait ce qu'il fait, il connaît la réponse, et que nous devons apprendre à lui faire confiance pour être juste devant lui. Que c'est par la foi, on a foi en Dieu, même si on a l'impression que c'est la folie. C'est des choses qu'il est toujours bon de se rappeler. Une très belle cantique d'ailleurs, le chapitre 3, si vous voulez le lire par vous-même. Sophonie. Prophète dans le royaume du Sud aussi, trois chapitres encore. Et on pense qu'il était de descendance royale et peut-être d'origine africaine. Il y a des détails dans ce qu'il dit, dans ce qu'il écrit. Son nom signifie l'Éternel a caché ou l'Éternel a protégé. Lui aussi vient après la chute du royaume du Nord et avant les problèmes pour le Sud. Il est en fait en. Il vient après. Comment je pourrais dire ça? Il vient avant Jérémie, Habakkuk, Abdias et Ézéchiel qui vont prévenir le royaume du Sud. C'est disons le premier qui va les appeler à changer leur comportement. Et donc lui, il les met en garde, encore une fois, du jugement de Dieu qui va venir contre Juda, mais aussi du jugement de Dieu envers les nations autour. Il va réitérer que Dieu règne malgré les apparences, et il va aussi annoncer la restauration à venir et la guérison du peuple qui va revenir en terre promise. Et lui aussi va parler du jour de l'Éternel, si vous voulez regarder dans le chapitre 3, à partir du verset 9. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'ils fassent tous appel au nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Venus de plus loin que les fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs, ceux que j'ai dispersés m'apporteront des offrandes. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi, car alors j'enlèverai du milieu de toi ceux qui exultent dans leur orgueil, et tu cesseras de faire l'arrogante sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Le reste d'Israël ne commettra pas d'injustice, il ne dira pas de mensonge, et il n'aura pas dans la bouche une langue trompeuse, mais ils pourront manger et se coucher sans que personne ne les trouble. Et ensuite, des cris de joie et des choses qui doivent les faire se réjouir. Et ce que je disais, pardon, le jour de l'Éternel est annoncé au verset 8. « Attendez-moi donc, déclare l'Éternel, le jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai décidé de rassembler les nations, de rassembler des royaumes, pour déverser sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère. Oui, toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. » Ça termine les prophètes qui sont avant l'exil. Et ensuite, quand on arrive sur Agée, Zacharie et Malachie, on est dans les prophètes qui se trouvent après l'exil. Donc ici, on saute au contexte des livres qu'on a vus, à savoir Esdras et Néhémie. Et Agée est prophète donc dans le sud, hein, parce que quand ils reviennent, c'est à Jérusalem, il n'y a plus vraiment question d'Israël au nord. Hein. Ils ont été complètement emmenés en captivité par la Syrie et moins restaurés. On avait dit que c'était Israël qui avait donné la Samarie, les Samaritains qui sont un petit peu séparés. Et finalement, c'est les exilés à Babylone qui étaient le royaume du sud, les tribus de Juda et de Benjamin qui sont amenés à Babylone et qui, eux, vont revenir à Jérusalem. Alors, il y a sans doute aussi des gens des autres tribus, des autres endroits où la Syrie des années avait amené en captivité qui reviennent, mais c'est principalement des gens du royaume du sud. Agée parle à Josué et Zorobabel, qui étaient les deux personnes qui avaient en charge la reconstruction du temple, qui avaient été envoyées. Et Agée, on en avait parlé, c'était un prophète, quand ils reviennent à Jérusalem, ils commencent à construire le temple, et puis, face aux difficultés, ils s'arrêtent pendant presque 10 ans. Et Agée va les encourager, va les exhorter à finir le travail de reconstruction du temple, avec 4 discours qui ont lieu, on pense, tous en 520 avant Jésus-Christ. Il est intéressant parce qu'il est le premier à utiliser des choses très, très exactes quand il dit la deuxième année du règne de Darius, le premier jour du 6e mois. Ça permet de vraiment dater avec précision ces choses. Il annonce de manière intéressante au chapitre 2, verset 9, « La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. » On dit que c'est une annonce de la venue de Jésus dans ce temple, cette idée que la gloire de ce temple sera plus grande que la précédente, alors que dans la précédente, il y avait la gloire même de Dieu qui s'était reposée dessus. Le temple de Salomon, on dit qu'il avait été rempli de la nuée de la gloire de l'Éternel. Et Agée qui dit qu'il va avoir une gloire supérieure dans ce temple. Et on sait de l'histoire des Juifs qu'entre ce moment-là et puis la venue de Jésus, il n'y a pas de retour de cette gloire antérieure de Dieu comme une nuée. Et donc c'est évidemment, on pourrait, du point de vue des Juifs, ces prophéties ne sont pas encore accomplies. Le temple, ce temple-là, et même ça reste inaccompli, puisque ce temple-là a été détruit après par les Romains. Ce serait intéressant de voir ce que les rabbins juifs disent à propos de ce verset-là. Et on pourrait résumer son message de manière très brève à chercher d'abord le royaume de Dieu, un petit peu comme ce que Jésus va dire dans Matthieu 6. Le peuple revient et lui va les encourager. Finissez le temple, cherchez à faire la volonté de Dieu. C'est ça la priorité. Zacharie, lui aussi, donc, est prophète à Jérusalem. On sait que c'était un prêtre, en plus d'être un prophète. Et son nom signifie « L'Éternel se souvient ». Il est contemporain d'Agée, avant et après la reconstruction du temple. Eux sont donc tous sous l'Empire perse, l'Empire médo-perse dont on avait parlé, qui avait succédé à l'Empire babylonien. Zacharie va aussi inciter le peuple à dépasser la reconstruction, à finir la reconstruction du temple. Pardon, mais il va aussi les inciter à aller plus loin avec une certaine idée de reconstruction spirituelle personnelle de chaque personne. Il va aussi, d'une certaine manière, les prévenir que le royaume messianique va venir, mais de manière plus lointaine que ce qu'ils attendaient peut-être. Et lui va avoir beaucoup de visions assez incroyables qui vont rejoindre les visions de l'Apocalypse. Zacharie est d'ailleurs avec Osée, un des plus grands des petits prophètes avec 14 chapitres. Il a des visions de chevaux, de quatre cornes, d'un cordeau pour mesurer Jérusalem, de choses avec le souverain sacrificateur, entre guillemets, Josué, qui aidait avec la reconstruction du temple, qui va être accusé par Satan, mais finalement couronné. Il va avoir des visions d'un chandelier d'or avec deux oliviers qui l'abreuvent en huile, une roue, un rouleau volant, suite une vision d'un boisseau, c'est-à-dire un panier qui servait d'unité de mesure, avec une femme dedans, et puis une vision avec quatre chars. On n'a pas le temps, on peut rentrer dans les interprétations et dans ce que ces visions ont signifié. Si ça vous intéresse, on peut en discuter ou je peux vous donner des ressources. Et il a beaucoup de choses sur la fin des temps, des visions qui concerne la fin des temps, comme on peut le voir dans l'Apocalypse. Il donne aussi beaucoup de détails sur le Messie à venir et sur les deux venues de Jésus, la première venue en tant que serviteur humble qui va être rejeté, mais aussi la deuxième venue avec le grand jour de l'Éternel, avec le jugement. Il annonce de manière intéressante au chapitre 12, verset 3, ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront s'y écorcheront et toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle. C'est intéressant, ça, dans le contexte, ça parle de choses à la fin des temps, mais c'est aussi cette idée que Jérusalem va constituer un problème et un souci pour les peuples. Et on sait évidemment que c'est un problème géopolitique majeur depuis longtemps et encore de nos jours. Au chapitre 12, il y a aussi le verset 10. « Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. » Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. C'est l'annonce de la crucifixion de Jésus et du fait que le peuple juif va le, va rejeter le Messie et que plus tard, ils vont se rendre compte de ce qu'ils ont fait. Et il y a aussi un verset qu'on cite souvent, Zacharie 4, 6. Alors, il y en a plusieurs. Il y a l'annonce du fait que Jésus allait être vendu pour 30 sous, le champ du potier est mentionné dans Zacharie. Mais dans Zacharie 4, 6, il est dit, alors il a repris et m'a dit, voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Cette idée que Dieu accomplit les choses par son esprit et pas par la puissance ou la force. Et ça, c'est quelque chose auquel il est bon de réfléchir quand on voit les promesses de Jésus pour l'Esprit de Dieu et de l'Église, et du début de l'Église, avec le déversement de l'Esprit Saint sur l'Église et le fait que c'est ça que Dieu utilise pour agir. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Zacharie, notamment par rapport à ses prophéties, mais comme je disais, on n'a malheureusement pas le temps de s'y attarder. Malachie, le dernier des petits prophètes. Trois petits chapitres. Son nom signifie « mon messager ». C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Lui se situe un petit peu plus tard, sous Esdras et Néhémie. On avait dit que c'était peut-être une soixantaine d'années après Zorobabel et la reconstruction du temple. Esdras et Néhémie, on se souvient, étaient revenus pour reconstruire Jérusalem, les murs de la ville. Et Israël, donc ils sont revenus, mais dans le contexte, si on réfléchit à ce qu'ils enduraient, on avait dit que c'était une toute petite partie de la nation d'Israël qui était revenue de Babylone, qu'il y avait peut-être 2 à 3% des Juifs qui étaient à Babylone, qui étaient revenus en terre promise, que la vie était dure, ils avaient des problèmes, ils avaient des opposants, des ennemis dans le territoire, que c'était pas sans doute pas ceux qui étaient revenus, sans doute pas des riches ou les plus aisés qui avaient forcément profité de la situation à Babylone, c'était sans doute ceux qui étaient un petit peu plus en difficulté. Et Israël reste finalement une petite province sous la domination de l'Empire perse. L'Empire perse, je crois que c'est 127 ou 130, on parlait de satrapie, c'était les provinces de cet empire qui était immense. Et donc c'est une petite province sous cet empire et ils n'ont pas d'importance, ils sont sous cette domination et n'ont aucun moyen et aucun espoir de s'y soustraire. Et bien alors un petit peu la question, où est cet avenir glorieux qui était annoncé par les prophètes, où est les choses qu'avaient annoncé les prophètes. Et on peut facilement imaginer que le peuple doute de Dieu et des prophéties. Et on avait vu notamment dans Esdras et Néhémie que le peuple s'était détourné très rapidement de Dieu, avait commencé à faire un peu n'importe quoi, et il y avait eu des réveils, mais souvent suivis très rapidement d'une rechute. Et Malachie, c'est une série de questions qu'Israël pose à Dieu. Surtout au début, mais l'idée où ils disent au chapitre 1, on peut voir en quoi nous as-tu aimé. Nous sommes détruits, mais nous relèverons les ruines. Voilà ce que dit l'Éternel. Ça continue. En quoi avons-nous méprisé ton nom? Et il y a des réponses, il y a comme ça des questions et des réponses entre le peuple et Dieu. Il y a encore une fois avec ces prophètes, c'est un mélange entre l'idée que le peuple n'avait rien appris de l'exil, on avait vu avec Néhémie, qu'il péchait encore, Ils commettaient les mêmes péchés que ceux qui avaient été commis avant l'exil et que ça allait encore une fois amener le jugement de Dieu sur eux. Et Malachi essaie de les encourager, de leur rappeler « Dieu ne change pas, qu'il va revenir comme annoncé », en mettant toujours en exergue cette idée qu'il, s'il ne se repent pas, il va devoir revenir jugé, mais que s'il se repente, il leur pardonne et il leur annonce encore une fois la venue de ce jour du Seigneur. Et on voit les mêmes problèmes dans Malachi, l'inclusion de dieux étrangers, de mariages mixtes avec les peuples autour et de ces choses-là. Tout ce qu'on avait vu avec Esdras et Néhémie, et on voit que c'est donc exactement le même contexte. Et Dieu qui essaie par plusieurs manières de prévenir le peuple et de leur parler. Et c'est dans ce contexte-là qu'on finit l'Ancien Testament, un petit peu avec, on pourrait dire au niveau chronologique, Néhémie, avec le peuple, et Malachi, avec le peuple qui a le temple reconstruit, qui a Jérusalem reconstruit, mais qui finalement est pas vraiment attentif à Dieu, qui est dans le péché, qui est détourné, et on peut dire que ils ont vraiment besoin de ce sauveur qui est promis, qu'ils ont toute la religion et tous les rituels, mais sans explication, et ils ont toute une série de prophéties non réalisées, plein de choses. On a vu, il y en a 12 là, les 4 grands, on pourrait dire presque la moitié de l'Ancien Testament qui est de la prophétie. Et on a l'impression qu'il y en a une grande partie à la fin de ces choses-là qui est en suspens, où le peuple se dit, bon ben, où ça en est? On voit pour eux que la souffrance règne et le mal règne en quelque sorte, et ça va nous donner la tension en quelque sorte que le Nouveau Testament va résoudre. De voir que cette relation spéciale avec le peuple, la loi, les prophètes n'ont pas suffi, n'ont pas réussi à sauver le peuple d'Israël et les peuples autour, et que l'homme avait besoin de plus. Et c'est Jésus qui va résoudre toute la tension du Nouveau Testament. Et on va regarder un petit peu le fil rouge de ce message, de cette idée de Jésus et du besoin du Sauveur dans tout l'Ancien Testament la semaine prochaine. Mais c'est vraiment, ça monte un petit peu crescendo jusqu'à Jésus, quoi. Toute cette histoire se culmine avec Jésus et trouve son point de résolution avec Jésus. Voilà pour aujourd'hui.